Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
En 7 ans de rendez-vous, j'ai une seule fois un label, pour le coup c'est un label, qui me dit, il dit on va aller au disque d'or coûte que coûte. Donc après chacun en fait ses conclusions, tu vois. T'as un grossiste de stream qui est venu le voir, en disant peut-être bah lui tiens, il a pas l'air d'acheter de stream, peut-être c'est qu'il a pas le plug, tu vois. Et du coup le mec est venu le voir en lui proposant, et tout le monde achète des streams, je vends à lui. Mais ce qui est aussi intéressant de ça, c'est les montants. Le mec lui dit écoute, moi le million de stream premium en France, je te le vends plus ou moins 4-5 000 euros.
Salut l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Ietherm sur Bouscapé. On va parler d'un sujet dont tout le monde parle, mais finalement que très peu de personnes semblent maîtriser, c'est l'achat de stream. Pour en savoir plus sur le sujet, on a invité un journaliste qui a écrit un article à ce propos, c'est Sofian Fanen.
Salut.
Ça va Sofian ?
Très bien, toi ?
Ça va, cool. On va pouvoir bénéficier de ton expertise sur le sujet. En tout cas, on a des nouvelles têtes en cette nouvelle année. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu chacun, les gens dans l'industrie de la musique ? Qui commence ?
Je commence. Akash, Alpha Kilo, journaliste, host, consultant, principalement avec Raplume, maintenant avec Bouscapé aussi et avec d'autres gens avec qui je peux pas dire les noms. Vincent.
Vincent Lenen, Vinzi, ex-journaliste, on va dire, tweetos qui pénave beaucoup, et business manager et producteur depuis peu.
Et Sofian, tu pourrais te présenter aussi ?
Ouais, moi je suis journaliste, toujours. Encore journaliste. J'ai monté un média qui s'appelle lesjours.fr, média sur abonnement, et je travaille sur la musique côté artistique et côté écosystème business, on va dire.
Un expert de la musique, en soi.
Ouais, j'essaye.
Ok. Bon, Flo, on te connaît.
Je ne me présente pas, du coup.
Mais est-ce que ça va ?
Moi, ça va super. Je suis content de te revoir à cette place. Maintenant, t'es plus.
En fait, il est content parce qu'il est débarrassé de moi.
T'es plus avec les gros bras à côté de moi. Là, j'ai un peu
bref, on commence l'émission. Déjà, avant de dire les termes, on va définir ce qu'est l'achat de stream. Flo, je te laisse la parole, comme t'as envie de me.
J'aurais bien fait de me taire. Du coup, l'achat de stream, c'est assez simple. C'est le fait d'acheter des écoutes qui est du coup frauduleuse pour augmenter le nombre de streams. Alors après, il y a, je pense, une notion qui est importante, c'est qu'une écoute est comptabilisée à partir de 30 secondes. Donc en général, quand tu achètes des streams, tu vas acheter pour que ça dure au moins 30 secondes pour que ce soit comptabilisé sur les plateformes. Et il y a un autre enjeu, c'est que c'est comptabilisé sur les plateformes, ça ne veut pas dire que c'est comptabilisé par les ventes du Snap. Donc si tu veux que tes écoutes, que tu achètes, soient prises en compte dans tes ventes, notamment dans ta première semaine, il faut que ce soit des écoutes de compte premium et des écoutes faites en France. Voilà, l'achat de stream, c'est ça.
C'est important de le préciser. Justement, toi, Sofian, qui a écrit une enquête sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous dire, en termes d'achat de stream, qui le fait, pourquoi ces personnes-là le font et comment est-ce qu'elles le font ?
Oula,
ça me prend
deux heures, là. C'est pas un tuto, hein. c'est pour savoir.
Qui le fait ?
Globalement.
Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Et pas que le rap. Ça, c'est vraiment un truc super important à dire. C'est pas du tout limité au rap. C'est assez fort dans le rap, très probablement, parce que, tout simplement, c'est là où il y a de l'argent à se faire, et c'est là où il y a une sorte aussi de course à la visibilité, il y a beaucoup d'ego, etc. Donc évidemment qu'il y en a beaucoup dans le rap, mais ça traverse aussi la pop, le métal, les musiques pour enfants, les musiques d'ambiance, énormément, beaucoup, beaucoup dans les musiques d'ambiance ces derniers temps. Donc c'est une pratique qui s'est installée, moi les premiers papiers que j'ai fait dessus, c'était en 2011. 2011, le premier article que j'ai fait dessus. À l'époque où il suffisait de faire tourner son ordinateur et l'ordinateur des frères et des copains la nuit. Mmh. Et puis on remontait et il y avait un groupe de métal français comme ça qui s'était retrouvé numéro 2 du top 5 Spotify entre Rihanna et Adele en 2011 comme ça, avec un morceau qui avait juste tourné en boucle, quoi. Donc tout le monde le fait un petit peu. Et ensuite, les techniques ont énormément évolué depuis 2011, depuis les tout débuts du streaming. On est passé, on peut en parler un peu plus précisément, mais en gros, on est parti de cette stratégie un peu basique de faire tourner. On est passé ensuite au bot, création de comptes automatisés et des comptes qui tournent tout seuls. Ensuite, il y a eu le piratage de comptes, une grosse phase de piratage de comptes. Ça se fait encore. Et après, il y a le faux stream un peu classe d'aujourd'hui, un peu bossé, c'est-à-dire des vrais comptes payés avec des cartes bleues virtuelles notamment. Et là, c'est vraiment de la commande précise avec des logiciels qui vont vraiment imiter des comportements d'auditeurs, d'auditrices qui ressemblent à quelque chose, qui respectent les parts de marché des grands acteurs de la musique, qui respectent les parts de marché sur les différentes plateformes, parce qu'on sait que ça stream plus sur Spotify que sur Deezer en France par exemple, mais il faut que ça stream sur les deux pour que ce soit crédible. S'il y a un million de streams sur Spotify qui apparaissent et qu'il n'y a pas la proportion sur Deezer, c'est louche. Donc il y a eu une sorte de professionnalisation de la fraude, avec en face une professionnalisation de la chasse à la fraude sur les plateformes, et on en est à peu près là aujourd'hui.
Je rejoins ce qu'il dit, et je pense qu'il y a... Et ça qui est super dur, c'est qu'en gros, c'est vraiment une grosse omerta autour du stream, donc c'est super dur de savoir qui fait, comment fait, etc. Mais je pense qu'en tout cas, il y a deux catégories qui se distinguent, c'est ceux qui ont les moyens d'aller acheter des streams qualitatifs, et du coup, c'est les plus discrets. Et puis t'as aussi, je pense, tous les amateurs qui vont aller acheter des streams en tapant sur Google « achat de stream » et qui vont acheter des streams pour le coup de bots étrangers, le truc qui est sauté juste après. Et on en parlera après, mais je pense que c'est ce qui rend le truc encore plus compliqué, parce que du coup, tu vas avoir... t'as une enquête du CNM qui est un peu qui est revenue un peu sur qui achète des streams, etc. etc. Et je pense, et la difficulté de cette enquête-là, c'est qu'ils se basent sur les streams qui ont été détectés par les plateformes. Et je pense que ça vise un peu le résultat, dans le sens où, par exemple, ils expliquent que... la plupart des gens qui achètent des streams, ça va être plutôt des petits artistes. Et j'aurais tendance à penser que potentiellement, la plupart des gens qui achètent des streams et qui se font choper, c'est des petits artistes, tu vois. Mmh. Donc c'est ça qui est super difficile d'avoir un sujet sur l'achat des streams, c'est que c'est un truc où, finalement, c'est super dur de détecter le vrai du faux. Et je pense que Sofian, c'est une des personnes les plus avancées dans ce domaine en France, tu vois. Mais que ce soit les labels, les producteurs, les artistes, les plateformes, chacun a un peu des intérêts divergents. Et donc du coup, c'est super dur d'avoir des informations dessus, tu vois. Donc je pense que c'est ce qui va être dur dans cet épisode-là, qu'on arrive à en parler sans avoir des infos ultra précises.
Justement, Sofian, dans ton article, tu dis « Derrière leur position officielle qui condamne les fake streams, certains labels sont au mieux dans le déni, au pire dans le mensonge. » Donc comment vous expliquiez cette situation-là ?
Ce qui est compliqué, je pense, c'est qu'il y a vraiment un jeu de dupes ou qu'on a des discussions au sein de l'industrie sur ce sujet-là. Je connais très peu de gens qui assument de dire, à part si vraiment t'es proche d'eux ou autre, ouais, j'ai acheté des streams sur ça. Donc en fait, même la personne qui achète beaucoup, qui a ce réflexe systématique sur ses artistes, va prendre la position dans une discussion, même auprès de gens qu'elle connaît bien, la position qui est de dire, ouais, eux je crois qu'ils font, ou alors détourner sur ailleurs. Et en fait, il y a une espèce de jeu de rumeurs global où c'est très compliqué de savoir qui le fait. Et moi, j'ai beau avoir entendu toutes les rumeurs, il y a très très peu de labels où je sais que j'ai la certitude de savoir, bon, eux, on sait qu'ils achètent. Et c'est un, comment dire, et c'est, ouais, c'est un jeu de dupes. Mais malgré tout, je pense que, notamment peut-être moins maintenant, mais il y a une époque, sans jeter de nom en pâture du tout, mais je pense que sur l'époque où c'était peut-être un peu plus simple, sur, on va dire, allez, 2015-2019, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes dont le développement a été aidé par l'achat de stream. Et c'est après des trucs avec des discussions que j'ai pu avoir à droite à gauche où j'ai compris que sur certains ça avait aidé. Et qui après, de même, on fait quelque chose de grand. Parce que ce qui est compliqué aussi, après je termine, mais ce qui est compliqué, c'est que le stream, je pense, c'est un peu comme le dopage en cyclisme. Ça veut dire, le dopage en cyclisme, moi j'ai un profil de grimpeur. Maintenant, demain, je peux prendre tous les produits dopants que je veux, je vais pas gagner une étape du Tour de France, même si j'ai les produits les plus élaborés. C'est qu'il faut avoir un certain niveau, et en fait, quand l'idée, c'est que tu as déjà un très bon niveau et que tu veux passer le palier d'au-dessus, tu as déjà une super hygiène de vie, tu t'entraînes super bien, le palier d'au-dessus, tu te dopes. Le stream, c'est un peu pareil. Ça veut dire que ça sert à rien, ça n'a pas vraiment d'intérêt si on stream pas. D'acheter en masse, ça va pas faire de nous une star. Par contre, ça aide à pousser le petit niveau du dessus, et donc c'est très compliqué aussi parce que c'est très dur d'avoir des analyses où on voit des chiffres, on se dit c'est évident que cette personne-là achète quoi.
Et toi, Akashi, justement, ton positionnement par rapport à ça ?
Moi, en fait, pour rebondir sur ce que dit Vincent, le premier problème en fait, qu'on soulève un peu tous, c'est à quel point c'est nébuleux. C'est que quand bien même tu pourrais dire, OK, peut-être que cet artiste achète, est-ce que c'est l'artiste qui achète ? Est-ce que c'est au-dessus ? Est-ce que c'est le producteur ? Est-ce que l'artiste a demandé à ce que ce soit acheté ? Est-ce que l'artiste est dans l'ignorance ? Pareil pour tous les échelons. Donc déjà, même si on arrivait à cibler, c'est compliqué. J'ai aussi lu à droite à gauche que, et je pense que Sofian, tu pourras le confirmer ou me dire si j'ai dit des bêtises, toutes les plateformes de streaming n'ont pas exactement le même... abnégation à lutter contre l'achat de streams frauduleux. Donc forcément, je sais que par exemple Deezer, c'est un peu son cheval de course, ils se disent ok, nous on veut vraiment lutter, mais d'autres plateformes, ça va passer beaucoup plus. Donc même parmi les acteurs principaux de distribution de musique, il y a un déséquilibre, il y a un déséquilibre aussi avec les artistes, parce que comme a dit Vincent, si demain moi je sors un morceau avec 2000 écoutes et que demain j'achète 2 millions, bah déjà, ça sera vu par tout le monde. Ça sera pas pro, parce qu'effectivement, les gens se comprendront, mais on l'a jamais entendu nulle part. Mais par contre, pour d'autres artistes, comme tu disais à l'époque de 2015, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des certifs, et il y a des gens qui se sont arrachés les cheveux, par exemple, telle personne a fait un disque d'or, telle personne a fait un disque d'or, et c'est autour de cette période-là qu'on a commencé à dire, oula, attendez, il y a peut-être un problème au niveau de la chasse.
Il y a eu un gros enjeu de communication, où c'est devenu un sujet pour le public, où le public s'est passionné pour cette idée-là, et c'est là aussi où c'est compliqué, c'est que il y a plein de rumeurs qui se créent, et notamment d'un point de vue, pas forcément industrie, mais plus public, parce que différents publics ne réalisent pas que tel artiste, en fait, est très fort auprès de tel public, enfin, auprès d'autres gens. Donc, en fait, ils stream, et que parfois, ça va surprendre. Je prends l'exemple typique des rappeurs marseillais, où pendant un moment, il y avait des bulles où à Paris, les gens ne calculaient pas ce qui se passait à Marseille. Du coup, ils étaient choqués de voir des chiffres. Et directement, vu que c'était des sujets qui revenaient, t'avais « Ah, mais c'est sûr qu'ils achètent des streams. » Alors, c'est juste qu'en fait, les gens les écoutent à Marseille et toi, tu les écoutes pas.
Le problème, c'est aussi qu'il y a des achats stream où effectivement, je tape sur Google « acheter stream » et ouais. Déjà, il y a une chance sur deux que tu te fasses arnaquer. Et sinon, c'est un gars qui va acheter 20 000 écoutes comme ça sur ton son. Et on peut arriver vraiment au niveau bien au-dessus sur… Bah, c'est un comportement humain, c'est-à-dire que non, le morceau il est pas écouté juste 35 secondes pour que ça fasse le stream, il est écouté et il écoute pas, il est pas écouté en boucle. Enfin, il y a plein de choses où une fois que tu as réussi à programmer un vrai algorithme et un vrai programme pour donner un comportement, bah là, ça devient compliqué à lutter, parce que c'est opaque à tous les niveaux.
Après, je me pose une question sur ça, notamment via des plateformes, parce qu'en fait, on dit les plateformes elles doivent lutter contre l'achat de stream, mais concrètement, mis à part une question d'image, je pense que c'est un peu la stratégie de Deezer de dire oui, nous on est propre, etc., parce qu'on pense aux artistes. Concrètement, qu'est-ce qu'elles ont vraiment à gagner ? Parce que tu vois, c'est des abonnements en plus, ça leur permet aussi de communiquer sur des chiffres en plus.
Ça fait partie du sujet.
Et il y a un autre sujet aussi, c'est...
Parce que les plateformes, plus il y a de volume...
Plus mieux c'est pour elles.
Plus il y a de succès, plus il y a de disques d'or. Plus on parle du streaming comme un mode, comme une réussite économique, plus elles en profitent dans l'absolu.
Mais
elles sont aussi chargées d'être un peu réglo avec elles-mêmes, parce que l'un des aspects problématiques des achats de stream, c'est que ce n'est pas illégal. Parce qu'il n'y a pas de texte de loi. Par contre, c'est contre les conditions générales d'utilisation des plateformes.
C'est de l'éthique.
Et les conditions et les plateformes sont censées faire respecter leurs propres conditions générales d'utilisation à minima.
Quand vous dites les plateformes, tout à l'heure, Akashi, tu disais que Deezer, c'est un peu son cheval de bataille. Il y a Spotify, il y a Amazon, il y a Apple aussi. Enfin, quelle plateforme joue le jeu, quelle plateforme ne joue pas le jeu concrètement, pour que les gens puissent comprendre?
Deezer bosse à fond, en tout cas beaucoup, mais des moyens. Spotify, pendant très longtemps, était gentiment à la rue. Et c'est vachement activé là ces derniers temps. Et de l'avis un peu de tout le monde, ils sont vraiment venus, ils sont performants sur tout ça. C'est assez technique, hein, parce qu'à un moment, il ne s'agit pas de repérer... c'est assez facile de repérer les streams qui ont été achetés sur fausstreamspotify.fr. Là. Ça, ils sont cramés tout de suite, tout de suite. Par contre, vraiment, les streams professionnels, les faux streams professionnels, on va dire, ceux-là, ils sont compliqués. Et c'est là où il faut plus que des personnes. Il faut des algorithmes, d'intelligence artificielle, même maintenant, etc., pour repérer tout ça. Apple, on ne sait pas trop. Apple, ils parlent très peu. Les personnes qui ne parlent pas se deviennent un peu louches, en fait. C'est vraiment, c'est pas un bon calcul, je pense. Amazon, de la vie générale, c'est open bar sur le faux stream. Sauf que on sait que ça ne représente pas énormément en termes de volume.
Marché,
donc, aller acheter du faux stream sur Amazon, ça ne rapporte pas forcément grand-chose. Et surtout, la visibilité, c'est à peu près nul. Donc, voilà. Et après, il y a des plateformes, comme des plus petites plateformes, comme Qobuz, etc. Qobuz, on sait que les écoutes se font pas forcément sur les mêmes musiques que sur Spotify et Deezer. Donc, ça se joue sur d'autres secteurs musicaux, on va dire.
Et quand tu as réalisé ton enquête, justement, toi, Sofiane, de ton côté, est-ce que tu as eu des noms d'artistes qui sont ressortis, qui se sont fait peut-être enlever leur projet ou des singles des plateformes parce que les plateformes avaient constaté des achats frauduleux?
C'est un peu le serpent de mer, les artistes. Déjà, tout le monde s'accuse. Tu disais, là, c'est vraiment... Non, mais moi, j'y touche pas. Par contre, lui, là-bas, à fond, quoi. Ouais. Tout le monde s'accuse et tout. Moi, je reçois toujours des messages, des DM, etc., où on me dit, j'ai des infos sur tel artiste et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est un peu bidon. Ou alors, c'est pas assez solide pour pouvoir sortir, vraiment. Le nom que j'ai sorti, c'est Vita. Vita qui a eu quasiment un album entier, Takedown, en 2019, chez Playtoo. Qui a été à un moment, et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais vraiment, moi j'ai fait une grosse enquête là-dessus, donc je suis assez à l'aise sur tout ça, qui a été le usual suspect un peu du secteur pendant un moment. Est-ce qu'ils ont resserré la vis, etc. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des artistes qui sont en licence, est-ce que c'est l'entourage, est-ce que c'est le label, est-ce que c'est hyper nébuleux, comme tu disais, en fait, tout le monde s'accuse. Parce que le système même du streaming et des contrats comme ça, qui sont un peu des poupées russes,
permettent un peu à tout le monde de s'accuser et de dire qu'en fait c'est toujours l'autre. Voire même c'est le concurrent qui a acheté des streams pour faire tomber l'autre. Ça c'est aussi des choses qui arrivent. Donc voilà, après, est-ce que c'est intéressant en fait de lâcher des noms? Est-ce qu'en fait la problématique, comme tu disais, en fait on est rentré dans un truc un peu du type Tour de France. Et en fait, aujourd'hui, l'achat de stream est juste une conséquence du système actuel du streaming qui est une course au volume. C'est la course au volume de stream. En plus, c'est la course au disque d'or, etc. Donc, il faut faire plus que le single d'avant, plus que le single du copain, plus que le truc, il faut aller plus vite, faut faire, et surtout, il faut sécuriser le truc. Donc, j'ai mis de l'argent sur ça. Je sais qu'en mettant 300 000 streams en plus, je fais mon disque d'or, je fais ma première semaine comme je veux qu'elle soit, etc. Donc, je le mets parce que l'autre à côté l'a fait aussi. Voilà. Donc, en fait, on est arrivé dans un moment où, moi, quand j'en parle, aux gens me disent « Non, mais en fait, c'est du marketing. C'est
un business marketing. » Est-ce que ce n'est pas un outil marketing vu qu'on est dans une société basée sur la recommandation, les chiffres, l'audience, et que même certains médias, y compris même nous tous, je pense, que ce soit Rappelit, Bouscapé, Ventra, pas trop de diffuser les chiffres de vente, est-ce que finalement, on n'alimente pas un modèle qui est un peu une course sans fin, en fait?
Après, ce qui me pose un vrai problème avec l'achat de stream, c'est que oui, tu as raison, tu as ce truc de... T'as ce truc de ouais, le mec, par exemple, tu vois, c'est le même problème sur les sponsors. Ouais, il fait des grosses vues sur YouTube, mais parce qu'il a pris des sponsors, tu vois. Mais le problème de l'achat de stream, c'est que ça crée, moi, du coup, mon taf au quotidien, c'est de bosser avec des artistes. Et ça crée auprès des artistes un vrai mal-être de ouf, parce qu'ils soupçonnent toujours ce qui marche de tricher. Et du coup, il y a un vrai moment où, tu vois, le mec, il se dit « Ouais, moi, je marche pas parce qu'en gros, je prends pas la drogue du faux stream. Mais du coup, c'est pour ça que je marche pas. » Et en fait, il y a des mecs qui prennent pas et qui marchent quand même. Et donc, du coup, ça crée un truc de tout le monde se dit « L'autre, il triche, c'est pour ça que j'y arrive pas. » Et donc, c'est vraiment ce truc-là qui pour moi, est un problème. C'est que si au moins, on savait qu'il trichait, tu vois, ça serait plus simple. Genre en mode, ok, lui c'est plus gros, mais il a triché. Tu sais pas combien de moments c'est pour ça.
Toi, Flo, dans ton travail ou Vince, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur une équipe avec laquelle vous travaillez, un artiste, un producteur qui vient vous voir? Peut-être que l'artiste n'est pas au courant. D'ailleurs, vous me direz, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une équipe en face de vous qui vous dit, moi je veux tricher, comment est-ce qu'on fait? Aide-moi à tricher parce que sinon moi je bosse pas avec toi ou t'as pas d'apport.
Et bah, ça, je pense que c'est ce que disait tout à l'heure Vinzy, hein, c'est qu'en gros, même le mec qui triche, il a les droits dans les yeux en disant, j'ai pas triché. C'est tellement un tabou que, en gros, c'est pour ça que c'est super dur. Je pense qu'en 7 ans de rendez-vous, j'ai une seule fois un label, pour le coup c'est un label, qui me dit, qui nous fait comprendre qu'il va acheter. Et même ça, c'est, tu vois, genre, même ça, c'est. Il dit on va aller au disque d'or coûte que coûte. Donc après, chacun en fait ses conclusions, tu vois.
Quel label?
Ah bah ça, je vais pas le dire. Mais tu vois, genre, c'est. Et c'est la seule fois où, en 5 ans de, ou 5 ou 6 ans d'industrie, où t'es un. Et encore, tu vois, c'est même ça, c'est déguisé. Parce que quand tu dis coûte que coûte, ça veut dire quoi? On va bosser plus pour y arriver, tu vois?
Du coup, c'est peut-être toi qui interprète.
Ouais, c'est chacun interprète, ouais. Tu vois. Et
moi, j'ai joué l'avocat du diable là-dessus. Il y a le côté, effectivement, point de vue du public, les ventes, voilà, le fait de plus vendre, c'est devenu un argument de vente. Et il y a un côté aussi, industrie, près des médias, des structures, etc. Je vais prendre un exemple concret. Demain, j'ai un artiste avec qui je travaille, qui est signé dans un label, qui est pas mal, mais qui n'a pas une force de frappe, on va dire, politique au sein de l'industrie. Super puissante, ok. L'artiste, il a un single qui rentre, qui est, je sais pas, 40e du top single, tu vois, qui se maintient bien. En face, cet artiste-là, il a un artiste dans un délire proche, un peu concurrent, et puis les gens les mettent un peu en concurrence. Et cet artiste-là, il se met dans un label qui est un top label. Et par exemple, on va imaginer qu'il y a une grosse radio, par exemple Skyrock. Alors, je ne connais pas exactement les critères de Laurent Bounot et je veux pas anticiper, mais imaginons que Skyrock dise, bon voilà, nous, il faut que ça soit dans le top 25.
Oui, bah, pour... C'est plus ou moins ça le critère. Hein.
Voilà, c'est ça, pour que ça rentre. Ok, le label d'en face, étant donné que c'est un label qui gère beaucoup de volume, qui achète beaucoup de campagnes, des planet rap, etc., c'est des gens qui s'entendent bien. Donc potentiellement, eux, leur artiste, il a un titre qui est 37e, mais peut-être que tu t'arranges et puis bon. Ouais. Mais au final, si j'achète des streams de manière douce pour atteindre ce niveau-là, il y a une logique en vrai d'éthique au fond, mais en quoi est-ce que c'est beaucoup plus grave à partir du moment où mon seul problème, c'est que l'artiste avec qui je travaille, il est juste dans un label qui a un peu moins de force. Tu vois ce que je veux dire?
Ce que tu nous dis en filigrane, c'est que c'est une nécessité.
Bah, c'est qu'en fait, on a un système qui est construit de la même manière sur le volume, à tous les niveaux. Et du coup, le vrai cœur du problème du stream, c'est le fait qu'effectivement, c'est une économie, c'est une logique market-centric. Du coup, ça veut dire que en prenant plus, les autres ont moins.
Bien, tu fais une différenciation et vous me direz entre le faux qui engraine le vrai, le fait qui engraine l'organique et le faux qui emmène nulle part et finalement tu n'as pas un modèle économique qui se crée derrière, tu ne remplis pas de salle et on voit qu'il y a un problème.
Si tu es au même position de stream sur Spotify, le fait que c'est autant triché d'avoir ton boss de label qui part en vacances avec Laurent Bounot et qui arrive à faire entrer le morceau en playlist Skyrock, que de payer des streams.
C'est pas un peu cliché, ça.
Et pour moi,
non,
c'est pas une question de
non, enfin, le coût de la proximité, vacances.
Pour moi, c'est pas de la triche, c'est normal, c'est du business. C'est ça. Mais en quoi l'achat, c'est pire. Beaucoup plus scandaleux, tu vois ce que je veux dire? C'est juste, c'est du business. Et malheureusement, il y a c'est plus qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est moins de condamner les acteurs que le système en soi, comment il est fait, où tout t'es basé pour qu'on calcule les choses sur du volume. À partir de ça, les gens s'adaptent, ils lancent des projets. Et effectivement, on peut en penser ce qu'on veut. Et en termes d'éthique, il y a des questions, mais c'est faut se questionner sur le système dans sa globalité
moi,
aussi.
Pour te répondre,
sur
les... Je trouve que le gros problème, c'est un peu, c'est que déjà il y a ces deux critères, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux qui amènent nulle part. Donc il y a beaucoup d'artistes qui, parce qu'ils ont été engrainés ou parce qu'ils ont cette pensée en tête, ils finissent droit dans le mur, alors que cet argent-là aurait pu être utilisé pour faire plein d'autres choses. L'autre gros souci dans l'industrie, c'est que ça, c'est un problème, c'est facile de le pointer du doigt. Les chiffres ont été mis en avant, ultra avant depuis, je vais être gentil, 10 ans, mais plutôt 5-6 en fait.
5-6, ouais.
Dans la musique pour le grand public. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile d'expliquer au grand public, ah bah vous voyez, c'est des tricheurs comme ça, que d'expliquer, bah vous voyez ce label-là ? Effectivement, ils peuvent de temps en temps dire, bah si vous prenez pas tel artiste.
Et ce qui en soi n'est même pas mal, c'est du business, c'est normal, ils sont à cette place-là, ils font du business, il n'y a rien de mal dans le fait que Bounot les rende plus vite parce que.
Pour moi, l'un participe à l'autre, en fait.
Moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, tu arrives dans un truc où, comme tu dis, les chiffres sont ultra scrutés et le fait de les augmenter artificiellement, ça fait que le mec qui fait des bons chiffres naturellement va être critiqué. Tu vois, au-delà du fait que tu mettes en avant celui en mode ouais, lui il a fait une grosse première semaine, c'est surtout que un artiste en dev qui fait 3-4 000 ventes en première semaine, on va trouver ça ridicule parce qu'on a un autre qui fait 8-12. Mais si le mec a fait 8-12 en vrai il fait 6, ben en fait tu changes tous les standards. Donc en gros, c'est à partir du moment où le problème c'est la communication sur les chiffres, mais ça a toujours existé et on parle quelques années dans le rap, mais je pense que tu vois, genre, les top 50, ça existe depuis des années. Le fait de, oui, première semaine, le fait disque d'or, ça existe depuis toujours.
Les gens n'avaient pas forcément accès aux gros chiffres.
C'est pas accessible pour le grand public.
C'est pas la même chose.
Non, parce que ça en parlait déjà dans les médias. T'avais déjà ce truc de lui, il fait disque d'or. On parlait déjà de disque d'or. C'est juste qu'on parlait que des grosses étapes. Ouais. Que là, maintenant, on parle des. En fait,
la première semaine.
C'est ça. Et là, on va revenir à autre chose.
Il y a déjà de la triche à l'époque du disque d'or aussi.
Oui, ça a acheté des disques.
On pensait que c'est le streaming qui a inventé la fraude. Il y a de la fraude depuis qu'il y a de la musique qui est vendue. Même avant, avec les partitions, il y avait de la fraude. Voilà. Donc c'est pas nouveau. Le problème c'est la masse et le fait que ça soit devenu un système qui brouille la piste entre la musique intéressante et la musique qui est artificiellement poussée et à la fin les artistes ils en souffrent.
Est-ce que ça joue pas sur l'artistique? Est-ce que ça joue pas sur l'artistique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis un artiste, je me dis que si je fais pas tant de chiffres en trichant, et ben mon projet sera peut-être
je vais pouvoir moins demander.
Bien sûr.
Parce que peut-être que le mec qui triche, il a pas besoin de changer sa musique pour tricher.
Mais en soi, Flo, peut-être que les gens aujourd'hui, je sais pas, vous me direz, préfèrent écouter un projet qui a fait tant de ventes première semaine, je sais pas, 10 000 ventes première semaine, plutôt qu'écouter un projet qui est peut-être beaucoup plus abouti, beaucoup plus qui propose quelque chose, mais qui a fait 2000 ventes. Donc à un moment donné, pour être écouté, peut-être qu'aujourd'hui, certains artistes,
en fait, c'est un problème global qui nous appartient à tous, journalistes, médias, radio,
producteurs,
et en fait baser une validation sur du chiffre, ça n'a pas de sens.
Parce qu'on n'est pas dans cette société-là. La recommandation, avant tout, les chiffres, la notation.
Voilà. Après, s'il y a un bon disque qui stream, tant mieux. Mais s'il y a un bon disque qui stream pas, il est quand même intéressant et il faut aller s'y intéresser. Et c'est le boulot des médias de le faire. Ouais. Et je trouve que vous avez fait une émission avant sur les médias rap, etc. À quoi servent les médias et tout. En fait, ils servent à ça, je pense, aujourd'hui. Et il faudrait que les médias, à commencer par les jeunes médias rap, vraiment, mais tous aussi, parce que les grands, même les médias, même n'importe quel canard, Le Monde, Libération, n'importe quoi, sont aussi connectés sur les chiffres de réussite. Et en fait, il faut arrêter, il faut se déconnecter du truc. Et même au sein des labels, le travail de directeur artistique, tout ce boulot-là qui a un peu disparu, parce qu'aujourd'hui, les artistes, ils arrivent avec leur équipe, ils signent en licence, et le travail de direction artistique de... Pourquoi tu fais de la musique, en fait? Ça veut dire quoi, ta musique? Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, etc. Est-ce que tu veux juste ressembler à celui d'avant qu'a cartonné en faisant ça? Ou est-ce que tu as un truc à toi? En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans ce nœud-là. Et pour se sortir de ce problème de la manipulation du stream qui met du brouillard sur tout le monde, il y a deux solutions. Il y a changer le modèle économique du streaming, on en parlera peut-être, et il y a
arrêter avec cette histoire de disque d'or, de volume de stream, de trucs comme ça, et s'intéresser à la musique avant toute chose. Alors c'est hyper naïf de dire ça, parce que demain rien ne va changer, mais c'est quand même super important de pouvoir le dire.
Et même on va peut-être aller dans le pire. J'en profite pour rebondir sur une discussion que qu'on avait en off, tu me dis que vous en avez parlé avec Flo hier, où ce qui vient d'arriver là. Là, juste avant, hier, la veille de ce tournage, il y a Aurel San, on a appris que Aurel San a signé un deal à 15 millions, etc. Et c'est pas à exclure que dans le futur, on commence à voir comme dans le foot, les montants des avances des artistes en développement qui signent. On se retrouve dans un game où même un artiste en développement, juste, on va plus écouter lui que lui parce que, à ce qui paraît, lui a pris plus d'avances. Et je crois que malheureusement, on va vers toujours plus de...
Moi, qui ne suis pas trop le foot, j'ai quand même l'impression que quand le mec a fait un gros contrat, c'est un truc où après, ça attire les regards.
Ouais, c'est ça.
Il justifie son montant.
C'est ça.
Et ça peut arriver, effectivement, l'artiste en développement qui signe pour 200 000, il a fait un seul morceau, les gens vont dire, ah ouais, est-ce qu'il mérite et tout. Et là, ça a été un enfer. Parce que la différence,
c'est. Ce qui était un peu le cas aux USA déjà, il y a ça aux USA.
Quand ils disent, ouais, lui, il a signé. Et
toi, à l'époque, quand on dit, ouais, il a pris tant de millions, etc.
Sauf qu'il y aura deux problèmes en France. Déjà, les montants, ils sont pas si élevés, donc ça va décevoir tout le monde. Et le deuxième problème, c'est que les mecs ont pris de l'argent, bon courage après.
Et
parce que les mecs
les
vont venir les voir, tu vois.
On va parler d'un deal d'édition, de distrib, etc. Ouais. On va tout confondre.
C'est vrai qu'on met en avant le fait, justement, Sophia, tu mettais en avant le fait que les médias doivent faire leur travail d'influence, de conseil, etc. Ouais. Que les labels doivent plus développer le côté directeur artistique. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre aussi le fait que le stream soit de plus en plus. Enfin, il y ait des streams frauduleux, mais de l'autre côté, l'essor des réseaux sociaux, les trends TikTok, YouTube qui commence peut-être à baisser un petit peu, mais ça reste quand même un réseau social qui permet d'avoir une certaine audience. Est-ce que finalement, tout ça, c'est pas basé sur la rentabilité? C'est-à-dire que les labels ne veulent pas prendre de risques, veulent avoir de la rentabilité. Après, les producteurs indépendants misent pour... En fait, c'est un business. On parle de musique. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas la part business?
Je suis très naïf en disant ça.
C'est ça.
Mais ça me paraît quand même une réflexion à avoir. Et même limite, ça me paraît intéressant vis-à-vis du public.
D'ouvrir le débat
D'avoir des nouvelles voix ou des médias qui disent « Moi, franchement, les chiffres, je m'en tamponne un peu. »
Moi,
ce qui m'intéresse, c'est cet artiste-là, je vous en parle aujourd'hui, parce que franchement, ça m'a touché au cœur. Et point. Il n'y a pas d'autre problématique que ça. Et j'allais dire, le reste, c'est d'autres sujets, c'est d'autres papiers, c'est un autre secteur économique. Mais déconnecter un peu l'artistique du business et dire « Ok, c'est... » Évidemment que c'est emboîté, évidemment que les deux se regardent, évidemment qu'il ne faut pas être naïf, mais il faut quand même...
C'est un vieux pieux, mais qui
essaie qui trouve un peu les choses.
Je pense qu'on y va de plus en plus. Enfin, c'est l'inverse, parce que tu vois, il y a eu un moment... Parce qu'en vrai, ça, c'est les stats, peu importe les ventes, quoi, c'est juste le terme de stats, tu vois. À un moment, t'as Instagram qui a dit, on va, comme les stats, rendre les gens malheureux, parce que ça, c'est une réalité, tu vois, parce que du coup, on est dicté par est-ce que ça marche ou ça marche pas, en regardant juste les stats, on va retirer les likes. C'est un truc dans lequel ils sont revenus, tu vois, ils ont remis les likes, quelques certains qui peuvent l'activer. À l'inverse, t'as Twitter qui a rajouté les impressions, un truc qu'ils mettaient pas avant. Donc je pense que plus ça va, plus on va vers les stats, parce que là on parle des ventes. Mais en vrai, globalement, quand tu veux convaincre quelqu'un d'aller... En fait, il y a tellement de musique que quand tu veux le convaincre, tu dis écoute, il se passe ça en termes de chiffres, ça veut dire que concrètement, ça paraît objectif. Tu vois, tu dis,
mais je vous pose la question à vous dans vos secteurs, je vous pose la question à vous dans vos différents secteurs, en tant que journaliste, enfin vous deux en tant que journaliste, vous deux en tant que business manager, etc. Est-ce que demain vous allez bosser avec un artiste, même si vous appréciez sa musique, qui n'a pas de stats? Parce qu'en fait, c'est bien de dire des plateformes, mais nous-mêmes, peut-être dans nos...
Il y a un truc qui est différent, c'est que je pense que ces dernières années, il y a quand même, et notamment, on a beaucoup parlé du rap Twitter et tout, il y a un petit switch où il y a des médias qui arrivent, qui sont justement en limite dans un parti pris anti-mainstream, et des artistes qui montent un peu dans cette idée de la qualité, on ne fait pas de concessions, etc. Donc je pense que Flo, comment on est amené à bosser l'exercice comme ça. Et aujourd'hui...
Mais qui font des stats.
Mais qui n'en font pas au départ.
Il y en a un autre qui kiffe moins, mais il fait 100 000 abonnés.
Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, juste, excusez, après je te laisse, mais moi, demain, je vois un artiste, je l'écoute la première fois, je prends une claque, je sais qu'aujourd'hui, après j'ai confiance en mes goûts, parfois je peux me tromper d'ailleurs, hein. Je sais qu'aujourd'hui je me dis, pas avoir 200 auditeurs, je m'en fous, je vais aller bosser avec lui, je vais faire des rendez-vous, on va bosser, parce que je sais que, voilà, je te prends un exemple, un des rares artistes que je cite avec qui je bosse, Bébé Jacques, au début quand je commence à bosser avec lui, je crois qu'il a 2000 auditeurs mensuels, et je sais pas qu'il a fait Netflix, juste j'écoute le truc, je me dis mais c'est évident, lui ça va, il y a des gens qui vont détester, d'autres qui vont adorer, on aime pas, on pense qu'on veut de sa musique, mais il y a une proposition, tu vois. Et je suis allé en me disant, lui, carrément au début je voulais m'associer avec lui, je suis allé le voir, je lui dis viens donne-moi des parts, on monte un label ensemble, au final ça s'est pas fait comme ça, mais on bosse ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui t'as plus facilement un truc où, quand il y a un artiste qui a vraiment une proposition, même s'il y a pas de stats, tu sais qu'avec le bon réseau, le bon entourage et d'autres choses, ça va monter.
Quelle est la part de ça, en vrai, quand il y a un artiste
que je kiffe qui a pas beaucoup de stats, je vais pas bosser avec lui, en fait, je vais parler avec lui, je vais lui donner des conseils, je vais l'aider, mais en vrai, moi, mon taf, c'est de trouver un deal. s'il a 0-0 économiquement, il ne représente rien, tu ne vas pas réussir à trouver un deal.
Ça aussi.
Ou alors, il faut que tu ailles trouver un deal en artiste. Un mec qui dit, il n'y a pas de stats, donc moi, je mets de l'argent pour développer et c'est moi qui investis. Mais aucun artiste veut signer en artiste. Donc la réalité, c'est que nous, il y a plein d'artistes avec qui on discute, avec qui on parle. À la base, ils n'ont pas de stats. On kiffe ce qu'ils font. Donc on leur dit, écoute, on va donner des conseils pour t'aider à faire monter ta musique. Mais tant que tu n'auras pas un petit. Parce que c'est pas des énormes chiffres. Hein. Mmh. Aujourd'hui, un mec à 20-30 000 auditeurs sur Spotify, en vrai, c'est rien. Mmh. Ça suffit à aller chercher un bon deal, tu vois. Mais selon le type de musique que tu fais. Mmh. Mais en vrai, tant que si le mec, il a rien sorti, tu vois, typiquement, le mec qui vient nous voir en mode, j'ai rien sorti, d'accord, on kiffe ta musique, mais tant que tu sens rien, tu n'arriveras pas à trouver un deal. Pourquoi ? Parce que économiquement, tu ne représentes rien et tu veux un deal dans lequel tu restes propriétaire de la majorité des parts. Donc, ce n'est pas possible, tu vois.
Mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans un truc par rapport à ce que tu dis, en tout cas, Flo, dans l'idée, le serpent qui se mord un peu la queue. C'est-à-dire que tous, peut-être à un certain niveau, on participe à ce système de la notation, des stats. Et finalement, ça oblige les artistes producteurs à se doper.
Aussi là-dessus, c'est que, après, peut-être que je pars en sujet, dis-moi si c'est le cas, mais.
T'as le droit à leur sujet.
Les labels, je pense aujourd'hui, je pense pas me tromper en me disant que les labels, notamment maisons de disques, font de moins en moins de full dev. Ouais. Full dev, ça veut dire de développement depuis le début.
Voilà. De 1 à 10, on va dire.
Et de plus en plus, ont tendance à signer des deals avec des indés en disant ce label va développer des artistes et on va leur faire confiance. Parce qu'il y a aussi un cas où, ouais, justement, maintenant, on revient au stat, au fait de déjà avoir 20 000, 30 000 où c'est rassurant. Et j'ai peu d'exemples de labels mainstream ces dernières années qui ont fait. Enfin, il n'y en a pas 10 000 d'exemples d'artistes qui ont explosé en signant vraiment, tu sais, à 300 auditeurs mensuels quand ils étaient personne.
Ou maintenant, ça, on attend vraiment clairement. Après, pour les médias, pour le coup, moi, pour revenir plutôt sur la partie des médias, et en fait, j'imagine que c'est pareil pour vous, il y a quand même des paliers à respecter dans la musique. C'est-à-dire que. On n'a aucun problème à travailler avec des artistes qui sont au tout début. Alors moi, je parle par exemple pour les médias, parce que ça fait aussi partie, de plus en plus de médias en ont conscience, de mettre en avant des artistes et depuis le début et de tirer.
À laquelle Raplume a beaucoup participé à lancer.
Mais justement, sans vouloir faire bien sûr de caricature, il y a le patron du CNM qui disait la probabilité en gros qu'une partie des faux streams s'inscrivent dans une stratégie de blanchiment de revenus issus d'activités illégales, voire criminelles, est assez.
Ça, c'est un autre aspect du truc.
C'est pour ça que je vous ouvre cette porte.
C'est-à-dire
que certains producteurs indés, à un moment donné, est-ce que peut-être que la musique, c'est pas un moyen de diversifier les activités, tout simplement ?
En Suède, il y a une enquête, des enquêtes qui ont mené à montrer qu'il y avait du blanchiment par les achats de stream avec des systèmes de bitcoin, etc. Mmh. Et dans l'absolu, c'est hyper logique. Mmh. S'il y a de l'argent à blanchir, c'est moins embêtant et moins compliqué et moins risqué. D'aller utiliser des faux streams que d'aller ouvrir des fausses boutiques ou je ne sais quoi. Mais la finalité du truc, ça reboucle sur ce qu'on disait après, c'est qu'il y a aussi des artistes aujourd'hui qui se font utiliser, qui sont un peu qui sont utilisés par des gens qui sont un peu eux-mêmes coincés par ce système-là, un peu de crime organisé, etc., et qui ont besoin de jeunes artistes à jeter à la foule comme ça, en pâture, des jeunes artistes à qui on va faire miroiter des trucs, et en fait, on va leur rajouter du stream, etc. Ils vont aller nulle part, il n'y aura pas de tournée, il n'y aura pas de deuxième album, il n'y aura pas de suite, etc. Donc eux, en fait, ils y croient à un moment, ils pensent que ça fonctionne. En fait, c'est que du vent, et on a une part de l'actualité du streaming qui fonctionne un peu comme ça. Donc oui, c'est pas, faut pas non plus se cacher, ça fait partie de la problématique. Et en face, pour rebondir sur ce que vous disiez avant, on a justement des gens qui commencent à réaliser dans l'entourage des artistes ou dans les labels de dire en fait faut qu'on construise des carrières, faut qu'on arrête de faire un truc qui va marcher pendant 6 mois
qu'en fait c'est parfois d'avoir un artiste qui stream moins sur une courte période, mais qui est plus durable dans le temps, en fait, économiquement, même c'est avoir un artiste, donc tu sais, pendant 10 ans, qui va faire ses ventes physiques, qui va faire ses concerts, etc.
C'est vachement plus intéressant.
C'est une certaine sérénité, et sur lequel tu vas devoir mettre moins de promos, parce que tu as moins à bastonner. C'est des modèles. Ça, on vient au modèle économique de carrière de développement d'artiste, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus et qui est peut-être un peu plus sain dans le fonctionnement.
Est-ce que vous avez des exemples peut-être de situations où vous avez peut-être eu l'impression que telle équipe, qui est en activité ou pas, peut-être qu'ils sont plus en activité, etc., que vous posiez tel artiste, c'était pas clair.
Ce qui est compliqué, c'est
que... Il était...
Non, ce qui est compliqué, c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'en gros...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le mec qui sort de nulle part, auquel t'achètes un mort de stream, en fait, on le voit même pas, parce qu'il est hors des radars, parce que c'est tellement pas organique que tu vois, genre, ça m'est déjà arrivé de tomber sur les profils Spotify, pour le coup, où tu cliques, tu sais même pas qui c'est, le mec, il a plein de millions de streams, en fait, il n'existe pas en vrai. C'est faux, tu vois, c'est tellement faux qu'il n'existe pas. Et comme disait Vinzy tout à l'heure, je pense que ceux qui le font bien, c'est juste le petit supplément, tu vois, c'est genre la proportion qui reste quand même un peu naturelle. Mmh. Donc finalement, la probabilité que le mec qui veut juste blanchir son argent, il arrive à trouver l'artiste où il suffit de mettre 30% de plus pour que ça explose, j'y crois pas trop. Ou alors ça se peut, effectivement, t'as peut-être des mecs que personne connaît qui font des millions de streams, des millions de vues.
Il faut se poser la question de la rentabilité aussi de la chose. Ouais,
parce que c'est ça aussi dont il faut qu'on parle. C'est que, après, bon, dans le contexte.
Si ça marche, c'est bien.
En fait, c'est particulier parce que dans le contexte du blanchiment d'argent, il enlève un peu cette notion de rentabilité. En gros, moi récemment, j'ai un boss de label qui, pour le coup, je pense, est le mec le plus honnête et le mec qui se lutte le plus contre les streams.
Qui ça?
Je vais pas forcément le citer, mais tu vois, c'est un boss de label, pour le coup, très honnête. Et t'as un grossiste de stream qui est venu le voir, ouais, en disant peut-être, bah lui, tiens, il a pas l'air d'acheter de stream, peut-être c'est qu'il a pas le plug, tu vois. Alors qu'en fait, non, lui, c'est une question purement idéologique, tu vois.
C'est ça.
Et du coup, le mec est venu le voir en lui proposant, et tout le monde achète des streams, je vends à lui. Mais en fait, le gars, le but, c'est de vendre. Donc ça se peut, il te ment, tu vois. Mmh. Et du coup, le mec m'appelle scandalisé en disant, t'as vu, ils vont à tout le monde. Mais ce qui est aussi intéressant de ça, c'est les montants. Le mec lui dit, écoute, moi, le million de stream premium en France, je te le vends plus ou moins 4-5 000 euros. Mmh. Tu vois, c'est plus ou moins ce que génère un million de stream premium, mmh, tu vois. Et il te vend le truc de, si t'en achètes beaucoup, comme fait lui, je peux te descendre le prix, tu vois. Ouais. Mais en vrai, c'est ce que génère le million de stream, mais après tu vas voir la part de ta maison de disque. Donc en fait, à la fin, par rapport à ce que tu dépenses, tu gagnes moins. Donc directement, tu gagnes moins d'argent, tu vois. Par contre, si tu as une notion de blanchiment d'argent, tu peux t'en foutre de gagner moins parce que tu as toujours des pertes quand tu blanchis, tu vois. Et il y a cet intérêt de dire, je vais avoir des intérêts indirects en me disant que parce que je fais des millions de streams, j'arrive à intéresser plus de gens
derrière.
Exactement. Mmh. Mais après, tu vois le même problème. La question que tu posais tout à l'heure, c'est aussi savoir qui va être le mec qui va acheter. C'est aussi la question de se poser qui détient l'argent quand tu fais une opération comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle des artistes, l'artiste qui joue 10% à la fin, c'est pas lui qui va être capable d'acheter le stream à ce prix-là, mmh, tu vois. C'est qu'à un moment, c'est ça qui est aussi flou, c'est qui est complice, qui l'est pas, qui
cette notion d'opacité. Que, Sofian, quand on lit ton enquête, il y a le label, la majeure qui a un budget marketing, qui fait en sorte de transmettre ça, après selon les contrats bien sûr, aux producteurs indépendants, ou fait en sorte de passer par des intermédiaires pour pas être en contact direct. C'est-à-dire que la majeure n'est jamais en contact, les majeurs qui ont fait ça ne sont jamais en contact direct avec les gens qui achètent, qui font ces opérations de stream frauduleux, ou il y a le producteur indépendant qui va aussi être en contact avec ces gens-là. Et parfois même, tu dis que c'est la major qui présente la personne qui va faire son frauduleux au producteur indépendant. Tu dis ça dans ton enquête.
Il y a eu des histoires comme ça. Il y a eu des histoires, moi, qu'on m'a racontées, etc. Évidemment, moi, c'est toujours recoupé plein de fois, etc. C'est, je fais les choses sérieusement, c'est pas facile à dire. En fait, ça marche un peu dans tous les sens. Il y a des majors, enfin il y a des labels gros et petits qui sont victimes du truc parce qu'ils savent pas, et ils découvrent un peu après. Aujourd'hui quand même, faut être un peu, encore une fois, un peu naïf pour pas voir un peu, ils connaissent un peu le business quand même. Et il y a des majors et des labels qui sont eux aussi un peu coincés dans le système, en disant en fait si j'ai pas le budget indirect, budget marketing, budget machin, dans la signature, si c'est pas un peu prévu dans la signature, l'artiste il va pas signer. Et il va
signer. Je pars pas avec toi, clairement. Voilà. Donc une ça dans ma tête.
En fait, ça devient un peu. C'est comme le Tour de France, voilà.
Ouais, on y revient
en fait,
cyclisme,
ça devient. Mais... C'est toujours un peu ce. En fait, tout le monde aujourd'hui est un peu victime d'un système qui dysfonctionne par la nature même, encore une fois, du modèle économique du streaming et de cette course au volume et de cette course aux chiffres et de cet affichage permanent du chiffre. En fait, tout le monde est un peu acteur et victime en même temps du truc.
Mais pour aller plus loin dans le sujet, est-ce qu'on doit se méfier justement d'un artiste qui fait disque d'or, disque de platine, mais qui ne remplit pas forcément un
zénith? Il faut se méfier de tout le monde.
Est-ce que c'est corrélé?
C'est pas corrélé, parce que pour moi, il y a vraiment des questions de... Là, tu reviens à la sociologie, consommation des... Enfin, comment dire,
public engagé ou pas.
Ouais, c'est ça, et puis même des consommations culturelles.
Des musiques de disques.
Ouais. Et puis, il y a des publics scènes, des publics disques.
Soyons clairs, tu peux faire un disque de platine, demain, tu fais 100 000 ventes et tu n'es pas capable de remplir une cigale, on en est là.
Et puis, non, mais je te prends un exemple. Il y a des développements. Je prends un exemple, tu vois, il y a des... La scène aussi, ça se développe comme le master. Travaille. Et tu prends par exemple un exemple comme Soul King. C'est un artiste qui a mis beaucoup de temps, je crois, à prendre la scène au sérieux. En fait, Soul King, je crois qu'il a fait qu'il y a un an ou un an et demi son premier Olympia. Mmh. Ce qui est fou, parce que c'est Soul King. Mais en fait, c'est juste qu'aussi, il y a des logiques de la scène. C'est pas forcément tu t'annonces un concert et tout le monde vient. C'est qu'aussi, ça se travaille. Et je pense que. Mais tu fais bien de dire ça parce que c'est un truc qui revient souvent. Et moi, cet argument, je le trouve claqué parce que tu. C'est en bonne partie décorrélé quand même.
Ouais. C'est d'ailleurs ça qui est dur pour les tourneurs. Tu vois, là, je recevais. J'ai un podcast à côté qui s'appelle Rap Boss. Et je recevais un tourneur qui disait. Et du coup, eux, leur difficulté de leur métier, c'est pour réussir à signer un artiste, ils peuvent pas se baser sur les chiffres de vente, sur les chiffres de stream, etc. Parce que c'est pas la même chose du tout. T'as des mecs qui peuvent remplir en salle et qui vont rien faire à côté, tu vois. Et qui vont rien faire en stream et inversement. Donc c'est trop difficile. Et idem, toi, il y a un autre débat. Souvent, c'est dire, ouais, le D2C, tu vois, le mec qui vend du physique, c'est que c'est vrai. Mais c'est pareil. En physique, t'as des mecs qui sont pas bons pour vendre, enfin, qui ont pas le public pour vendre du physique et d'autres qui l'ont, tu vois. Et puis après, t'as d'autres enjeux, puisque t'as aussi des gens qui trichent en D2C. Mais ça, c'est encore un
débat.
C'est ça,
d'ailleurs, D2C, on y revient, tu vois, dans les autres débats là-dessus, où en quoi 1000 ventes digitales achetées, à quel point elles sont plus scandaleuses que 1000 ventes qui viennent doper D2C, comme il y en a eu beaucoup à une période où en fait, tu pouvais acheter, tu pouvais avoir la terre entière en cadeau avec ton D2C.
Tu gagnes une grosse voiture.
C'est ça.
Au
States, il y avait une énorme une bonne polémique à l'époque. Alors, parce qu'il y avait Tyler The Creator et DJ Khaled qui sortaient un album la même semaine. Et que Tyler, tu sais, qui incarne un peu ce truc d'artiste ultime, bonne musique, Kali, nanan. Et s'était fait dépasser par DJ Khaled avec son album Blockbuster parce qu'il y avait une histoire de, je sais plus, t'achetais un téléphone ou des boissons énergisantes, ça comptait comme une vente. Et là, t'en es au point de, en vrai, quand on arrive à l'extrême là, à quel point c'est plus scandaleux éthiquement, on dit
tout
aussi.
Dans ces cas-là, tu dis, lui en faisant ça, il a volé une place de numéro 1 qui aurait permis en termes de médias de gagner de l'argent aussi, tu vois. Donc, il y a toujours ce truc où tu voles un peu à quelqu'un si tu veux être premier.
Et à la fin, le marketing agressif, ça existera toujours.
C'est super
et
important le fait qu'en générant du volume de stream artificiel, ça dilue tout le monde. C'est quand même un aspect super important.
Je pense que ça, il faut qu'on
explique. C'est des problématiques d'une sorte de divorce entre le top 200-500 et le reste du top 10 000. Et en fait, il y a des gens de la classe moyenne de la musique, on va dire, toutes les musiques confondues, qui ne se sentent pas à l'aise avec ça, parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils bossent, ils ont une communauté, pour le coup, parfois, ils remplissent des salles, etc. Ils streament, ils ont des gens qui streament, en fait, ils ont du public, mais en fait, il n'y a pas d'argent qui rentre, parce qu'il y a une sorte de ballon...
On tire vers le haut, en fait.
Ballon
vers
en haut qui aspire tout.
Je pense que ça, faut bien l'expliquer, c'est qu'en streaming, comment ça se passe, on avait déjà fait, je crois, un sujet là-dessus, c'est le fait de dire, on va mettre, là, très basiquement, on va mettre l'argent de tous les abonnements. Et si tu représentes 1% des streams, tu récupères 1% des argent, tu vois, tout simplement. Donc le mec qui a triché, donc en gros qui a réussi à représenter 2% des streams parce qu'il a doublé ses streams, en vrai, il a pris 1% à ceux qui restent. Et donc c'est ça la problématique. Et je pense qu'il y a une deuxième problématique, c'est aussi s'il y a plein d'artistes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent grâce au stream et qui sont aussi persuadés qu'ils ont perdu parce que les autres trichent, parce que les autres font beaucoup de chiffres parce qu'ils trichent, tu vois. Mais c'est vrai que, et c'est aussi ça ma question par rapport aux plateformes de stream, c'est qu'une fois qu'on arrive à prouver que lui, il triche, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on lui a donné? Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Comme a dit Sofian, il y a un vide juridique. Le problème est là, il y a un vide juridique. Et Sofian a aussi dit quelque chose de très vrai, où c'était un peu plus longtemps dans la discussion, que ce soit la part des médias et tous les acteurs dans la musique, c'est un système qui fait défaut. C'est-à-dire que, moi je suis d'accord avec toi, le name and shame, comme disent les Anglais, c'est-à-dire X il achète, Y il achète, Violet il achète. C'est bien hein, sur le coup. Ça pourra servir peut-être, effectivement, là ça pourra peut-être créer des textes de loi pour, ok c'est une escroquerie, c'est si, c'est mi, rend l'argent. Mais le système, il ne va pas évoluer. On participe tous, de l'auditeur classique au boss ultime, de où vous voulez, à ce système de chiffres, à ce système de... Effectivement, on va plus regarder quelqu'un qui a vendu 7000 CD la première semaine et pas 3000, etc.
Quelles sont les solutions? Tu ne veux pas être dans la sanction forcément? Est-ce qu'on est dans la pédagogie? Est-ce qu'on tape sur les doigts? Est-ce qu'on est dans l'autorégulation de...
Il n'y a pas d'autre solution que de changer le modèle économique du streaming.
Je sais même pas si c'est ça, parce que du coup... Je pense que la plupart des gens le font pas pour le font juste parce que le fait de faire des gros chiffres de vente permet d'accéder à d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils le font même pas forcément pour la rémunération directe de venue du stream. Donc même si demain
ils
on fait
pour autre chose, ils le font par ego des fois.
Oui,
mais ils le font aussi parce que ça permet d'accéder à de la radio,
ouais,
à de la tournée. À un autre donc, contrat.
Mais là, du modèle économique, si on change le modèle économique, pour moi, ça ne change pas ça. C'est-à-dire que le modèle économique, c'est-à-dire quoi? Passer sur l'user-centric, par exemple?
Alors, le user-centric, j'arrive jamais à le prononcer, c'est un peu mort. Hein. C'est, ouais. Là, ça a été enterré par la proposition Deezer Universal là, sur l'artiste-centric. En gros, il y a un peu de user-centric caché là-dedans. Le user-centric, l'idée, c'est donc d'arrêter de compter à la part de marché, comme tu disais, Florian, mais de partir des écoutes de l'abonné. C'est-à-dire que moi, mon abonnement ne rémunérera, mais 7 et quelques euros qui reviennent à la musique de mon abonnement ne rémunéreront que les artistes que j'ai écoutés vraiment et pas des artistes qui ont fait plein de volumes de stream que j'ai même pas écouté moi, voilà, quel que soit s'ils ont fraudé ou pas. Et là, les propositions d'Universal Deezer essayent de corriger, c'est un peu comme s'ils serraient des boulons sur le moteur, voilà.
On met des rustines.
Qu'est-ce qui déconne? On va pas changer le moteur. On va serrer des boulons et des machins. Donc, c'est pas inintéressant. Et surtout, moi, ce que je trouve assez intéressant dans les propositions, qui sont un peu critiquées, notamment par les petits, parce qu'ils ont l'impression que ça va être encore une prime au vainqueur et tout, mais bref. Ce qui est intéressant, c'est que ça voudrait amplifier la communauté. Et le fait de dire, il faut avoir des gens qui vous suivent sur le long terme. Il faut avoir une carrière. Et en fait, voilà. Et on est un peu, ce que je disais, on est un peu en train de basculer dans ce nouveau monde du streaming-là, parce que tout le monde s'aperçoit que la course à l'échalote, là, c'est fatigant pour tout le monde, ça coûte très cher, et que peut-être qu'il faut revenir à peut-être produire un peu moins, mais essayer de faire un peu du plus qualitatif, de construire des carrières.
Prendre plus de temps.
Ok, peut-être que le premier, deuxième projet, il va pas streamer à mort, mais en fait, le vrai projet qui va être super important, c'est le troisième, et on va l'écouter pendant 60 ans. Vous voyez, comment en fait on écoute encore aujourd'hui des grands classiques des années 60, 70, 80, 90. Qu'est-ce qui va rester comme grand classique des années 2010? Est-ce qu'on en aura? Évidemment qu'il y en a. Moi, je ne pense pas que la musique soit moins intéressante aujourd'hui. Mais est-ce que le modèle économique et cette fuite en avant un peu bordélique avec beaucoup de brouillard ne nuit pas aux artistes et à la consolidation d'œuvres hyper majeures pour l'époque qui vont être celles qui vont rester? Et en fait, c'est celle-là qui fait
la masse réfléchir comme ça.
Je pense que, et juste pour rajouter là-dessus, je pense qu'il y a un autre grand sujet d'actualité et qui va aider à un retour vers une tendance peut-être plus saine vers le développement de carrière, c'est aussi qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Qui dit qu'on parle d'intelligence artificielle dit que demain, ça sera de plus en plus simple de faire des morceaux un peu calibrés, de faire voilà. Et je pense que le fait que ça soit, alors que soit ça soit des faux artistes, ça je sais pas si un jour ça marchera, mais en tout cas dès que ça soit de plus en plus simple de faire un single, je pense que ça va consolider le fait que les artistes qui vont chercher à développer des vraies propositions, des vrais univers, etc., qui sont difficiles à créer entièrement de manière assistée, vont tout simplement plus facilement pouvoir intéresser les labels parce que ça sera plus stable et qu'en fait les singles on pourra.
Je pense que la solution elle est à la jonction de tout ça.
Un single, il sera de moins en moins intéressant parce qu'en fait, il y a des outils qui viendront concurrencer, quoi. Peut-être qu'après, je caricature un peu, hein, mais...
Moi, je pense qu'en solution court terme, parce que là, on est quand même, on mise sur le fait que les mentalités vont évoluer, que les artistes vont évoluer, etc. Je pense que ça va arriver, mais ça met du temps. Solution court terme, en vrai, il faut que les plateformes de stream soient de plus en plus compétentes dans le fait de bloquer les faux streams, tu vois.
Les transparentes aussi.
Et transparentes.
Après, transparentes, c'est un peu relou parce que tu vois, genre, il y a une espèce d'effet aussi où quand t'as... quand t'es le bon élève qui lutte bien contre les faux streams et que t'annonces du coup le nombre de faux streams et qui est plus élevé que les autres parce que toi tu les as repérés, tu passes aussi pour la plateforme où tout le monde triche.
Mais justement, un peu pour contextualiser, pour que les gens puissent comprendre ce qu'on dit en termes de chiffres et que vous aussi vous me donnez votre avis sur la question, il y a le CNM qui a fait une étude qui est sortie en 2023 mais sur les chiffres de 2021. Je vais vous donner les chiffres, vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport aux plateformes de streaming. Il y a YouTube, Apple, Amazon qui n'ont pas souhaité coopérer par rapport à cette étude-là. Comme ça, je précise pour tout le monde. En gros, en France, sur l'année 2021, le nombre de streams frauduleux détectés se situe entre 1 et 3%, soit entre 1 et 3 milliards de streams. 1,1% chez Spotify, 1,6% chez Qobuz et 2,6% chez Deezer. Chez Deezer, la fraude la plus importante détectée se situe sur les musiques d'ambiance. Chez Spotify, elle se concentre à plus de 90% sur les nouveautés françaises et dans une écrasante majorité des cas, 80% sur le rap. Jusque-là, vous suivez? Et en gros, sur Deezer, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Sur Deezer et Spotify, la fraude s'y situe à plus de 80% au niveau de la longue traîne. En fait, la longue traîne, c'est tous les artistes qui se situent en dehors du top 10 000. En fait, les artistes
L'étude ne porte que sur le top 10 000.
C'est ça. Donc, c'est pour ça
que c'est la longue traîne du top 10 000.
Voilà. Mais justement, eux, ils précisaient que, en gros, ils précisaient bien ça, puis ils relativisaient la chose. C'est ça,
ils relativisaient. Mais avec deux choses sur ça, c'est les petits artistes, mais là, on parle que des streams qui ont été détectés. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait de
est-ce que les plateformes ont communiqué aussi.
C'est ça. Oui, mais au-delà de ça, c'est que en gros les plateformes elles te donnent les chiffres de ceux qu'ils ont réussi à choper. Mmh. Est-ce que les petits artistes c'est ceux qui se font choper plus facilement parce qu'ils ont moins de moyens pour faire des bons trucs. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est par exemple tu vois Deezer apparemment a du coup accéléré sa lutte contre les faux streams. Et en 2022, ce taux de 2,6, il est monté à 6,7%, tu vois.
Et par contre, le CNM disait aussi dans cette enquête pour conclure. Peut-être pour relativiser aussi la situation, disait que de moins de 1% des écoutes dans le rap seraient manipulées. Est-ce que tous ces chiffres-là vous paraissent cohérents? Est-ce qu'on est quelque chose? On est sur un.
En fait, avec l'opacité du truc, c'est impossible de dire.
Bon, tu te rends compte que.
Eux, ils disent, on donne les chiffres de ce qu'on a réussi à avoir. Donc en vrai.
De ce que les gens nous ont encore. Parce que les plateformes nous ont communiqué.
Il y a un sujet. Parce que tout à l'heure, tu disais, c'est quoi la réponse? Effectivement, toi, tu parlais du fait que les plateformes devaient être plus efficaces. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ajouterais un deuxième truc, c'est qu'aussi. Mais ça, il y a besoin que les plateformes soient plus efficaces, parce que c'est d'elles que ça partira. Mais tu parles du CNM, justement. Il y a aussi des organismes. En France, alors dans le rap, on le sait parfois un peu moins parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop au fait de ces choses-là, mais il y a des organismes, dont le CNM, aussi les sociétés de gestion de droits voisins, qui donnent des subventions, qui donnent des aides. Et si concrètement, demain, évidemment, il faudrait que les plateformes soient plus efficaces et qu'on soit sûr quand une plateforme affirme là, il y a achat clair. Si demain, ces organismes-là se mettent à punir les acheteurs, ça va commencer à aussi faire du tri.
Je sais pas, parce que déjà, comment tu sais que le mec il triche?
Non, mais voilà, il faut vraiment que l'outil soit efficace, c'est ça que je veux dire.
Est-ce que les acheteurs de stream, c'est ceux qui demandent des subs?
Mais quoi qu'il arrive.
Pas sûr.
Je sais pas. Pas forcément, je suis d'accord que pas tous. Mais peut-être. Mais il y en a peut-être quelques-uns. Ouais. En tout cas, ça peut déjà faire un début de tri aussi.
Mais en tout cas, quand je vois les échanges, ils sont assez constructifs. Mais finalement, en soi, peu importe le secteur, peu importe le pays, est-ce que la peur du gendarme, c'est pas quand même quelque chose qui permet de faire un levier ou peut-être que 80% des acteurs qui sont concernés par ça, ou je sais plus, à 70%, vont appuyer sur la pédale de frein. La peur du gendarme, soit le CNF, soit le CNM, soit le fait de divulguer, on parle de qui.
Mais ça serait, dans le rapport du CNM, il y a une proposition de dire qu'il faut un tiers de confiance, qui peut être le CNM, pour qu'il soit capable d'analyser les chiffres, d'avoir une vision neutre, froide, etc. Et de aussi
sanctionner éventuellement,
de s'assurer, c'est pas, ça serait pas forcément à ce tiers de sanctionner, mais de s'assurer que les plateformes jouent le jeu et ont toutes les mêmes outils à un niveau de performance équivalent, etc. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ça coûte de l'argent, en fait, de combattre contre les faux streams, et donc les plateformes mettent plus ou moins d'argent, de volonté, etc. Et donc l'idée serait de dire, ok, vous avez une obligation de moyens. Et on est là pour surveiller cette obligation de moyens, et on est aussi là pour avoir accès aux chiffres. Et alors là, on arrive dans un peu le nerf de la guerre, c'est que aujourd'hui c'est le SNEP qui donne les certifications. Est-ce que c'est normal que ce soit le syndicat des principaux labels qui donne les certifications? Ça serait intéressant que ce soit un tiers plus neutre, CNM ou pas CNM.
T'as l'impression qu'il y a quoi? Il y a une collusion d'intérêts quand c'est le.
C'est un syndicat de producteurs, donc quoi?
La musique, c'est quand même un secteur qui s'auto-régule. S'auto-régule ou qui s'auto-régule pas, justement, qui auto-fonctionne. Où on a un syndicat qui donne les certifications, quelques labels qui organisent les victoires de la musique. Enfin, c'est pas neutre et c'est pas clean, du coup. Ouais. Parce que même si chacun se regarde un peu et donc t'es un peu obligé de pas trop faire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi au niveau de l'autre, on va dire, c'est pas méga sain. Est-ce qu'on peut pas changer d'époque et dire, ok, on a un tiers de confiance, neutre, etc. Le CNM, pourquoi pas? C'est le CNC qui donne les chiffres du cinéma, par exemple. C'est pas Gaumont plus machin. C'est pas inintéressant, je trouve. Après, c'est peut-être plus difficile de tricher au cinéma. Mais voilà. Mais pour reboucler sur le CNM, quand on voit l'incapacité du secteur en ce moment à ne serait-ce que discuter gentiment et poliment sur le financement du CNM, on n'est pas du tout encore dans un secteur, enfin moi qui le regarde tout le temps, waouh, on est quand même encore dans une cour de gamin, je suis désolé, quoi. C'est vraiment... ça manque de maturité. Et je trouve que ce manque de maturité-là, il entretient la fraude, tout ce bazar-là, parce qu'on est encore dans un secteur qui est un peu héritier des années 80, du n'importe quoi, où il y avait tellement d'argent que ça se voyait même pas, etc. Et il faut aussi changer d'époque à ce niveau-là. Et le CNM peut être l'un des acteurs qui permet à tout le monde de se calmer un peu et d'être un peu carré et un peu pro.
Pour le coup aussi, qu'est-ce que... Enfin là, c'est vraiment... c'est plutôt vous, les spécialistes de droit, plus que moi. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire d'un point de vue juridique aussi là-dessus? Parce que ça peut aussi être un outil qui, à un moment donné, dire on va vous taper sur les doigts, on va vous enlever vos disques d'or et où Spotify et où Apple, on va vous retirer tel disque. C'est bien.
Ah, mais qui porte plainte?
Toi, tu parles de l'appareil législatif, le français.
Justement, c'est ça, c'est juridiquement quelle possibilité.
Est-ce que même moi, en tant que citoyen, ça m'intéresse de savoir que les députés sont en train de débattre du fait de... Enfin, franchement, après, il y a plus important à l'échelle du pays.
Non, après, c'est une vraie question de dire quel appareil juridique qui pourrait condamner ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que détecter les streams, c'est une chose compliquée. Mais par contre, une fois que tu as détecté le stream, c'est impossible de savoir qui a payé. Impossible. Ouais. C'est-à-dire que tu vas condamner qui?
Est-ce que c'est si impossible que ça, sachant qu'il y a des transferts? Et à un moment donné, je sais pas, j'ai n'importe quoi, quand tu me parlais de 4000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, je suis pas sûr que les gens, ou peut-être, je sais pas, je suis pas sûr que les gens arrivent avec des valises de cash. Donc à un moment donné, il y a des virements qui sont passés à certains intermédiaires. Parce que si Sofian arrive à faire une enquête qui te dit, oui, il y a des gens qui, oui, nous, on fait ça. Donc ces gens-là existent bien, physiquement, on peut les toucher.
À mes yeux, beaucoup trop d'énergie de la part des autorités pour savoir qui a acheter le stream, tu vois. C'est qu'à un moment, je pense qu'il faut aussi qu'on remette dans le contexte de tous les combats qu'il y a à mener en France. Ouais. Est-ce que le combat le plus important, c'est d'avoir une brigade qui essaie de savoir qui a acheté du stream en crypto?
Donc
je suis pas sûr, tu vois.
Donc on laisse les artistes se frustrer et on part dans la course
sans
fin.
On part en dépression
et on se dit c'est pas grave.
Moi, ce qui est important, c'est
l'un ou l'autre, en fait, finalement.
Je suis pas d'accord. C'est la bonne solution de mettre un tiers qui est vraiment à part.
C'est une solution entre deux.
À partir du moment où on arrive à éliminer les faux streams, c'est bon. Qui a payé ou pas, on s'en fout en vrai. Tu vois, c'est genre, vu au moins tous les chiffres qui sont dans ce tiers de confiance, tant qu'ils sont certifiés, c'est bon. Après, savoir si c'est son producteur, son manager ou un grand de son quartier qui a payé.
Je veux pas savoir.
En tout cas, par contre, au fait que les faux streams soient un gros problème, c'est-à-dire, effectivement, il faudrait peut-être que quelqu'un au-dessus de la Snap et des autres acteurs de la musique vienne et dise ok, un peu comme, voilà, on parle des gros problèmes qu'il y a en France, le fait que l'IGPN gère la police, c'est un gros souci. Mmh. C'est pareil dans la musique. Mmh. À un moment donné, on va peut-être mettre un tiers qui, lui, il a absolument pas d'intérêt à ce qu'il y ait 50 milliards de streams en plus ou 50 milliards de streams en moins. Mmh. Il veut faire son travail et ils peuvent donner des conclusions qui sont bonnes. De là, comme tu as dit, savoir est-ce que c'est ton producteur, c'est Pierre-Paul ou Jacques ou ton concurrent qui t'achète des streams pour te nuire, on s'en fiche un petit peu.
Vous êtes 4, plus moi ça fait 5. Il n'y a pas tellement de noms qui sont sortis finalement. Non. Les termes ne sont pas dits. Il y a
une espèce d'omerta.
Mais finalement, quand tu arrives à un certain niveau de l'industrie, là par exemple, une émission qui est comme regardée par les professionnels et le public, peu de noms sont dits finalement.
C'est moins une omerta qu'une opacité. On en revient.
Il y a des raisons
qui sont. En fait, même pas. Parce qu'omerta, ça veut dire qu'on n'oserait pas dire les noms. En fait, on ne les connaît pas. C'est juste que.
Mais même si tu les connaissais, que tu les dirais, Flo? Disons la vérité.
Ça ne serait pas important.
Ah bah voilà, toujours une question d'intérêt aussi. On dit la Snap, le truc, mais nous-mêmes, on est peut-être dans...
Flo, c'est pas son rôle, moi.
Mais nous tous, hein.
Sofian, c'est plus son rôle, par exemple. Mais c'est un journaliste.
Les gars, les rédactions s'appellent dilettaire, bon dilettaire, tout, on les dit pas.
Si on parle de logique médiatique, et moi, je suis d'accord, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, en fait, de lâcher des noms dans le sens où c'est le système qui est le problème. Par contre, on la connaît, la logique médiatique. S'il n'y a pas des noms qui sortent, le sujet, il n'existe pas, en fait. Donc, à un moment ou un autre, peut-être qu'il y a un gros nom qui va sortir et malheureusement, il va prendre pour tous les autres et ça fera un vrai sujet, etc. Il y a eu plein de tentatives de reportage dans toutes les émissions de la 2, de M6, de je ne sais quoi, qui sont allées nulle part parce qu'ils n'ont pas de journalistes assez spécialisés sur le sujet et que c'est quand même un tout petit milieu, la musique, et il faut trouver des gens qui parlent vraiment à la caméra. C'est méga compliqué, voire même pas possible. Mais à un moment ou un autre, c'est ce qui pend au nez un peu à tout le monde, qu'il y ait quelqu'un qui ait un intérêt à lâcher le truc, soit parce qu'il s'est attaché à quelqu'un, soit
pour se faire un
voilà. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que encore une fois, en fait, on va lâcher des noms, etc. Mais si on s'intéresse pas au système qui est derrière,
oui, bien sûr, il y a les deux.
Remplacer,
c'est mais, un peu stérile.
C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi des artistes, parfois des producteurs indés et des labels de façon générale. Mais est-ce que vous avez peut-être le souvenir d'une histoire où peut-être un responsable de label s'est fait sanctionner par son label par rapport à des pratiques
Elle est trop précise ta question pour pas cibler quelqu'un.
Non, vraiment, je vous pose la question. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez le souvenir?
Il y a un directeur d'Arista qui a été débarqué donc chez Sony pour ça, avec derrière plein de gens qui disent non, en fait il a pris pour tout le monde, encore une fois c'est un peu pareil
physique,
directeur de label, et qu'en fait il y a un directeur de label qui voilà, lui, est-ce qu'il a pris pour ça ou est-ce qu'il a pris pour d'autres problématiques et on lui a mis ça sur le dos parce que c'est bien pratique. Encore une fois, moi je suis pas, pour le coup je suis pas allé faire l'enquête sur lui parce que c'était pas tellement mon sujet sur le coup. Par contre effectivement j'ai dit ok, il y a un directeur d'Arista chez Sony qui a sauté, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui ont un peu inversement, qui ont un peu disparu du secteur, qui étaient pourtant présents, des gens qui étaient dans des labels, etc., dans les années 2012, 13, 15, etc., qui étaient là, qui faisaient, et qu'on voit plus. Parce qu'ils n'ont pas voulu y toucher. Il y a eu un moment où il y a eu une sorte de scission entre les gens qui voulaient rester purs et faire du développement d'artistes, faire un truc, vraiment faire leur boulot, quoi, parce qu'ils sont là, parce qu'ils aiment la musique quand même, faut pas oublier, on est quand même là pour ça, et qui ont disparu parce que soit ils n'avaient pas les succès, soit ils n'avaient pas les chiffres, voilà. Et on a eu toute une nouvelle génération qui est arrivée derrière. Je ne dis pas que la nouvelle génération triche, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais oui, il y a plein d'histoires comme ça, mais encore une fois, directeur de label ou artiste, en fait, tout le monde prend un peu pour les autres, et c'est pas le plus intéressant.
Et c'est peut-être même pas le centre du débat, comme vous disiez tout à l'heure.
Globalement, le rap prend déjà pour tous les styles de musique.
Oui, voilà.
Tu vois, il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être
c'est pour ça que le main shame, c'est
voilà. C'est peut-être aussi pour ça que tout le monde est un peu avec le frein.
Si je prends sur le blanchiment d'argent, c'est que ça
revient toujours la même chose. On n'a pas parlé assez des musiques d'ambiance. Mais en fait, les musiques d'ambiance et les musiques de bruit, tu sais, les playlists de bruit de ventilateur et tout ça. Franchement, s'il y a de l'argent à blanchir en ce moment, c'est dans les musiques de ventilateurs et les musiques de hautes aspirantes et les machins comme ça.
Universal qui a signé un accord avec Deezer, voilà, justement, pour que la rémunération ne soit pas la même pour les artistes interprètes qui font de la vraie musique et la musique d'ambiance qui est autre chose et qui représente, qui ne devrait pas être rémunérée sur Universal.
Et c'est là où, pareil la plus, enfin, en tout cas, d'après les gens qui bossent sur tout ça, à qui j'ai pu parler, c'est là où, depuis 2-3 ans, la hausse de la fraude, elle est vraiment sur ça. Donc, faut pas non plus se focaliser sur le rap, etc.
Moins de 1% sur CNN.
Évidemment que le rap a une part importante dans cette histoire parce que c'est la musique la plus écoutée en ce moment. Ça aurait été disco il y a 30 ans. Enfin, c'est pas une question de musique, en fait. C'est juste une question de structuration.
Ces musiques-là, il n'y a pas de logique carrière. C'est purement économique. J'ai un morceau, il pète. Et c'est marrant, quand tu vas sur TikTok, t'as des vendeurs de formation pour acheter du stream. Et là, c'est la même logique. Okay. Tu mets un faux morceau. Et après, tu achètes des streams dans tous les sens, tu fais tourner un bot, etc. pour gagner de l'argent. Et du coup, eux, ils ont pas d'idée de revenu annexe. Le mec qui fait plein de streams sur un bruit de ventilateur, il se dit pas, je vais remplir des années grâce à ça, tu vois. Donc il y a aussi.
C'est intéressant, ça dit.
Comment ?
Ça serait intéressant.
Concert d'ASMR.
Moi, juste, j'appelle le public parce que je pense qu'il y a des gens qui ont cliqué sur cette vidéo en disant, yes, on va avoir des blazes, etc. à justement prendre du recul et se questionner sur l'ensemble plutôt que juste de chercher sur ces débats-là,
qui
à savoir
quoi,
qui sont à chercher le sang, en fait.
Je vais être plus méchant que toi, Vinzy, je vais les inviter à se regarder dans une glace, moi. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis assez vieux à mon jeune âge pour avoir connu une époque où, quand j'ai commencé à écouter de la musique, j'en avais rien à secouer de qui vendait quoi la première semaine, de est-ce qu'il avait vendu plus de pulls, plus de... C'est ça. Et tu regardes maintenant, sur les 5 ou 6 dernières années, après c'est très bulle Twitter, mais pas que, en fait, au final, parce que ça se repercute un peu partout. Il va falloir que peut-être à un moment donné, les consommateurs de musique se mettent à reconsommer de la musique et plus juste arrêter de, bah voilà, tous mes copains écoutent ça, alors j'écoute ça, ou je vais écouter un tel parce que ça marche aussi à l'inverse. Il y a aussi des médias, mais il y a aussi des auditeurs qui sont en mode, non, ok, j'écoute que des gars qui sont en dessous de 30 000 auditeurs parce que je suis un digger, parce que... Non, écoutez de la musique. Vous faites tout simple, écoutez de la bonne musique, c'est mieux.
Ouais, j'espère qu'on n'a pas démotivé les artistes, les équipes et les producteurs. En tout cas, justement, on a essayé d'être le plus complet possible et d'être le plus aussi nuancé possible. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter à ce sujet?
Ouais, lisez Boulevard du Stream, qui est un très bon livre qui a été écrit par Sofian. Et je pense qu'il va vous aider aussi même à comprendre comment le stream est arrivé et l'impact que ça a eu sur l'industrie.
J'ai fait un documentaire sur Arte qui raconte en partie tout ça, là, qui s'appelle « Comment le streaming a mangé la musique ». Qui va un peu plus loin, là, qui va jusqu'à aujourd'hui, qui parle pas de la fraude au stream parce que c'est un documentaire en soi, encore une fois, Mais moi, j'insiste, enfin, j'invite tout le monde à lire mes enquêtes sur lesjours.fr parce que ça continue cette histoire de,
qui est un super média
de fraude. Merci. Et clairement, je ne suis pas arrivé au bout du sujet, malheureusement. Tant que le sujet existe, moi, je suis journaliste, je regarde ce qui se passe. Oui. Tant que le sujet existe, ça continue. Je continue à travailler là-dessus. Il y a peut-être encore des choses qui vont sortir.
Dernière chose, visez acheter des streams. Wow. Tu pourras couper. Wow. Dis-les. Oh là là.
Ah, putain, et ça reste pas.
Ça reste, ça reste. On bipera le nom, on bipera le nom. On laisse, mais on bipe le nom. En tout cas, merci l'équipe de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et on attend vos retours pour que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. Et on se voit à la prochaine émission.
Ou quoi, caisse.
Ou quoi, caisse.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.